premiers Jeux Olympiques, j'ai travaillé avec Michael O'Brien, un nageur qui disputait le 1500 mètres nage libre. Il s'était beaucoup entraîné, mais il avait l'impression qu'il ne faisait pas tout ce qu'il fallait pour gagner. En fait, il avait mis en place toute une série à blocages mentaux qui le freinaient. Il redoutait l'idée du succès. Il limitait ses ambitions à une médaille d'argent ou de bronze. Il n'était d'ailleurs pas favori pour la médaille d'or. Le favori, c'était Georges Di Carlo qui avait battu Michael à plusieurs reprises.
J'ai passé une heure et demie avec Michael pour l'aider à définir ses états de performance maximale, c'est-à-dire pour découvrir ce qu'il faisait lorsqu'il mettait en œuvre ses ressources physiques optimales, ce qu'il s'était imaginé, ce qu'il s'était dit, ce qu'il avait ressenti lors de la rencontre unique où il avait battu Georges Di Carlo. Nous avons analysé les mesures qu'il prenait mentalement et physiquement quand il remportait des compétitions. Puis, nous avons associé les états où il se trouvait dans ces moments-là à un déclencheur automatique, la détonation du pistolet de départ. J'avais découvert que le jour où il avait battu Di Carlo, il avait écouté Huel et Viss et les informations juste avant l'épreuve. Le jour de la finale olympique, il a donc fait exactement la même chose. Tous les gestes qu'il avait accomplis le jour de la victoire, y compris écouter Huel et Viss juste avant le départ. Et il a battu Georges Di Carlo et remporté la médaille d'or avec 6 bonnes secondes d'avance.
Avez-vous déjà vu jouer The Killing Field ?
Ce film comporte une scène si frappante que je ne l'oublierai jamais. Il y a question d'un enfant de 12 ou 13 ans qui vit au milieu des horreurs et des destructions de la guerre du Cambodge. À un moment, n'en pouvant plus, l'enfant s'empare d'une mitraillette et abat la première personne qu'il rencontre. C'est une scène impressionnante.
Comment, en effet, un garçon de cet âge peut-il en arriver à faire une chose pareille ?
D'une part, il est tellement désemparé qu'il se trouve en état de plonger jusqu'aux profondeurs les plus violentes de sa personnalité. D'autre part, il vit dans un pays qui est tellement imprégné par la guerre et les destructions que s'emparer d'une mitraillette lui paraît la réaction appropriée. Il a vu d'autres le faire et il le fait à son tour. C'est aussi une scène extrêmement destructrice.
J'essaie toujours, pour ma part, de me concentrer sur des états constructifs. Mais cette scène nous donne un excellent avertissement sur ce que nous sommes capables de faire à partir de certains états que nous ne pourrions pas faire dans d'autres. J'insiste sans cesse sur ce point afin qu'il s'ancre dans votre esprit. Le type de conduite que nous adoptons résulte de l'état dans lequel nous nous trouvons. Et notre manière de réagir à cet état dépend de nos conceptions du monde, c'est-à-dire des stratégies neurologiques que nous avons emmagasinées. Seul, je n'aurais jamais pu faire gagner la médaille d'or à Michael O'Brien. Il a fallu qu'il travaille presque toute sa vie à emmagasiner des stratégies, des réactions musculaires, etc. Je n'ai fait que découvrir comment mobiliser à la demande, en quelques minutes, ses ressources les plus utiles, ses stratégies de réussite.
La plupart des gens ne prennent guère de mesures conscientes pour contrôler leurs états. Ils se réveillent déprimés ou en forme. Les événements heureux les remontent.
Les événements malheureux les abattent.
Ce qui distingue les individus, quel que soit leur domaine d'action, c'est la manière dont ils contrôlent leurs ressources. La chose est évidente en athlétisme. Personne ne réussit tout le temps, mais certains athlètes ont la capacité de se mettre presque à volonté dans un état dynamisant.
Comment y arrivent-ils ?
En mobilisant ce qu'ils ont de mieux au moment voulu, quand la pression s'exerçant sur eux est à son maximum.
La plupart des gens cherchent à transformer les états dans lesquels ils sont. Ils veulent être heureux, joyeux, équilibrés.
Ils désirent avoir l'esprit en paix ou se sortir d'états qui ne leur plaisent pas.
Quand ils sont désemparés, en colère, bouleversés ou quand ils s'ennuient, que font-ils généralement ?
Ils allument un poste de télévision qui leur fournit de nouvelles représentations à intérioriser. Ayant désormais quelque chose à voir, l'occasion de rire, ils s'extraient de leur état de désarroi.
D'autres sortent, vont au restaurant, allument une cigarette ou se droguent. Dans le meilleur des cas, il arrive qu'ils fassent un exercice physique.
Le seul inconvénient de toutes ces démarches, c'est que leur effet n'est pas durable. Quand l'émission de télévision est finie, ils ont toujours les mêmes représentations de leur vie. Celles-ci leur reviennent à l'esprit et ils se sentent de nouveau mal dès que l'excès de nourriture ou de drogue a été consommé. Et ils doivent alors payer le prix de ce changement d'état temporaire. Mon intention, en revanche, c'est de vous montrer comment modifier directement vos représentations internes et votre physiologie sans recourir à des artifices extérieurs qui, très souvent, cause à long terme des problèmes supplémentaires.
Pourquoi les gens se droguent-ils ?
Non pas parce qu'ils aiment se planter des aiguilles dans le bras, mais parce qu'ils aiment l'effet que la drogue produit et qu'ils ne connaissent pas d'autre moyen de se mettre dans cet état. Or, j'ai connu des jeunes consommateurs de drogue dure qui ont arrêté après une marche sur le feu parce qu'on leur avait donné un meilleur modèle d'accès à la même extase. Un garçon qui disait être accro à l'héroïne depuis 6 ans et demi annonça au groupe à la fin de sa marche sur le feu
« Terminé. Avec la seringue, j'ai jamais ressenti quelque chose qui approche, même de loin, ce que j'ai ressenti en arrivant de l'autre côté des braises. »
Cela ne veut pas dire qu'il lui a fallu marcher sur le feu régulièrement. Il suffit qu'il accède régulièrement à ce nouvel état. En accomplissant un geste qu'il croyait impossible, il avait élaboré un nouveau modèle de ce qu'il pouvait accomplir pour se sentir bien. Les gens qui ont accédé à la réussite savent avant tout capter les éléments les plus féconds de leur esprit. C'est ce qui les distingue de la masse. Vous retiendrez de ce chapitre qu'un état donné peut vous fournir un pouvoir extraordinaire. Et comme vous pouvez contrôler vos états, vous n'avez aucune raison d'être à la merci des circonstances. Il existe un facteur qui détermine à l'avance la représentation que nous nous faisons des événements de la vie. Un facteur qui filtre la représentation que nous nous faisons du monde. Un facteur qui détermine les états que nous créons systématiquement dans certaines situations.
On l'appelle parfois le pouvoir suprême.
Dans quelques instants, nous examinons la force magique de la croyance.
Chapitre 4, la naissance de l'excellence, la croyance.
L'homme est ce qu'il croit. Anton Tchekhov.
Dans son merveilleux ouvrage « La volonté de guérir », Norman Cousin raconte une anecdote fort instructive au sujet de Pablo Casals, l'un des plus grands musiciens du XXe siècle. C'est une histoire de croyance et de renaissance dont nous avons tous quelque chose à tirer.
Cousin raconte comment il a rencontré Casals peu avant que le grand violoncelliste ne célèbre son 90e anniversaire. Voir le vieil homme commencer sa journée était presque douloureux. Casals était si frêle et si perclus d'arthrite qu'il avait besoin d'aide pour s'habiller. On comprenait tout de suite qu'il souffrait d'emphysème tant il avait de mal à respirer. Il avançait en traînant les pieds, le dos voûté, la tête projetée en avant. Ses mains étaient gonflées, ses doigts recroquevillés, il avait l'air d'un vieillard très fatigué.
Avant même d'avoir pris son petit déjeuner, Casals se dirigea péniblement vers le piano, un des instruments dont il jouait à la perfection. Il s'installa avec beaucoup de difficultés sur le tabouret. Puis, au prix d'un effort qui parut terrible, il posa ses doigts gourds sur le clavier.
Alors le miracle se produisit. D'un seul coup, Casals se transforma complètement sous les yeux de Cousin. Il se mit dans un état fécond et sa physiologie se modifia à un point incroyable. Il commença à bouger et à jouer, provoquant sur son corps et sur le piano des effets qui n'auraient dû être possibles que de la part d'un pianiste en bonne santé, fort et souple.
Ses doigts se dénouèrent, raconte Cousin, et se dirigèrent vers les touches comme des boutons de fleurs vers le soleil.
La seule idée de jouer du piano avait totalement transformé son état et donc ses capacités physiques. Casals commença par jouer des pièces du clavecin bien tempéré de Bach, qu'il interpréta avec beaucoup de sensibilité et de maîtrise. Il s'attaqua ensuite à un concerto de Brahms et ses doigts semblèrent courir sur le clavier.
Tout son corps fusionnait avec la musique, écrit Cousin. Ses mouvements n'étaient plus raides ni étriqués, mais souples et gracieux, et complètement libérés des crispations de l'arthrite.
Quand il quitta le piano, c'était un être entièrement différent de celui qui s'y était installé pour jouer. Il se tenait plus droit et paraissait plus grand. Il marchait sans traîner les pieds. Il se dirigea d'ailleurs aussitôt vers la table du petit déjeuner et mangea de bon cœur. Puis, il sortit faire une grande marche sur la plage.
Nous considérons habituellement les croyances comme des credos ou des doctrines, et c'est ce qu'elles sont souvent. Mais au sens strict, tout principe directeur, toute foi, toute passion qui peut donner son sens à notre vie est une croyance. Nous sommes soumis à une quantité illimitée de stimuli. Les croyances sont les filtres organisés, préétablis, de notre perception du monde. Elles sont les directives qui régissent notre cerveau. Quand nous croyons fermement que quelque chose est vrai, c'est comme si nous donnions à notre cerveau un ordre sur la façon de nous représenter les événements. Casal croyait à la musique et à l'art. C'est ce qu'il avait embelli, ordonné, ennobli toute sa vie et qui lui permettait encore d'accomplir un miracle chaque jour. Parce qu'il croyait au pouvoir transcendant de son art, il était lui-même doué d'un pouvoir qui défie presque l'entendement. Ses croyances transformaient quotidiennement ce vieillard fatigué en un génie plein d'énergie. Au sens le plus profond de l'expression, elle le maintenait en vie.
Un être qui possède une croyance a autant de force que 99 êtres qui n'ont que des intérêts,
a écrit John Stuart Mill.
Voilà pourquoi les croyances ouvrent la voie qui mène à l'excellence. Elles donnent des ordres à notre système nerveux. Lorsque vous croyez qu'une chose est vraie, vous vous mettez dans un état qui permet qu'elle le soit. Maniée de façon positive, la croyance peut donc devenir un outil des plus puissants pour réaliser vos désirs.
Au contraire, une croyance qui entrave votre action peut provoquer des résultats catastrophiques. Depuis des siècles, les religions donnent à des millions de gens du pouvoir, la force de faire des choses dont ils se seraient crus incapables. Les croyances nous permettent de capter les meilleures ressources que nous recelons en nous et de mettre ces ressources au service de la réalisation de nos désirs.
Les croyances sont la boussole qui nous guide vers notre but et qui nous garantit que nous l'atteindrons. Celui qui n'a pas de croyance ou qui ne réussit pas à épuiser d'énergie est totalement désemparé. Il est comme un navire privé d'hélice ou de gouvernail. Seules, les croyances donnent le pouvoir d'agir et de créer le monde dans lequel on veut vivre. Car elles nous permettent de voir ce que nous voulons et nous donnent l'énergie dont nous avons besoin pour l'obtenir.
En fait, il n'existe pas de force directrice du comportement plus puissante que la croyance. Fondamentalement, l'histoire de l'humanité est l'histoire de la croyance humaine. Les individus qui ont changé le cours de notre histoire, Jésus, Mahomet, Copernic, Christophe Colomb, Edison, Einstein, Kennedy ou Luther King, sont des gens qui ont modifié nos croyances. Aussi, pour modifier notre comportement, devons-nous commencer par agir sur nos croyances. Si nous voulons imiter l'excellence, nous devons apprendre à modeler nos croyances sur celles des individus qui sont parvenus à l'excellence.
Plus nous en apprenons sur le comportement humain,
plus nous découvrons l'extraordinaire pouvoir que les croyances ont sur notre vie.
À bien des égards, ce pouvoir défie les modèles logiques qui sont les nôtres. Mais il ne fait aucun doute que, sur le plan physiologique, les croyances, représentations internes cohérentes, agissent sur la réalité. Il y a quelque temps est parue une excellente étude sur la schizophrénie. On étudiait, entre autres, le cas d'une femme souffrant d'un dédoublement de personnalité. En dehors des périodes de crise, son taux de glycémie était tout à fait normal. mais elle était persuadée d'être diabétique et elle réussissait à transformer complètement son état physiologique qui devenait celui d'une diabétique. Sa croyance devenait réalité.
Dans le même ordre d'idées, il y a eu de nombreuses études décrivant le cas d'individus plongés dans un état de transe hypnotique, qu'on touchait du bout des doigts en leur disant qu'on leur appliquait un fer rouge. Invariablement, une brûlure apparaissait au point de contact. Ce qui comptait, ce n'était pas tant la réalité que la croyance, communication établie directement sans se poser de questions, avec le système nerveux. Le cerveau ne fait que ce qu'on lui dit.
La plupart d'entre nous connaissent l'effet placebo par lequel un médicament dénué de toute propriété curative agit sur la maladie, sur le malade qui est persuadé qu'on lui donne un traitement efficace. À ce sujet, Norman Cousin, qui découvrit sur lui-même le pouvoir de la croyance dans l'éradication de la maladie, écrit
« Les médicaments ne sont pas toujours nécessaires. La croyance en la guérison l'est toujours. »
Une étude remarquable de l'effet placebo décrit le cas de plusieurs malades souffrant d'ulcères aigus. On les divisa en deux groupes et l'on annonça aux malades du premier groupe que l'on donnait un nouveau médicament qui allait certainement les soulager.
On dit aux malades du deuxième groupe qu'on leur donnait un produit expérimental dont on ne connaissait pas encore très bien les effets.
70% des malades du premier groupe constatèrent une amélioration sensible de leur état.
Seulement 25% des malades du second groupe obtinrent le même résultat.
Or, dans les deux cas, on avait donné aux malades un produit dépourvu de la moindre propriété médicamenteuse. La seule différence était le système de croyance que les uns et les autres avaient adopté. Il existe d'ailleurs un grand nombre d'études encore plus remarquables de cas de malades à qui l'on avait donné des médicaments ayant des effets nocifs et qui n'ont pas éprouvé le moindre trouble car on leur avait dit qu'ils allaient se sentir mieux.
Des études menées par le docteur Andrew Well ont montré que les sensations des toxicomanes correspondent presque exactement à ce qu'ils attendent de la drogue qu'ils absorbent. Il a ainsi découvert qu'il pouvait amener un individu ayant absorbé une dose d'amphétamine à se sentir calmé et un individu ayant absorbé une dose de barbiturique à se sentir excité.
La magie des drogues réside dans l'esprit du consommateur, non dans les drogues,
écrit Well en conclusion.
Dans tous ces exemples, la constante qui a le plus fortement affecté les résultats est la croyance, le message systématique et cohérent transmis au cerveau et au système nerveux. Aussi puissant soit-il, le processus ne comporte aucun élément magique. La croyance n'est rien d'autre qu'un état, une représentation interne qui gouverne le comportement. Il peut s'agir d'une croyance dynamisante
ou au contraire d'une croyance destructrice.
Si l'on croit à la réussite, on trouvera en soi le pouvoir de l'atteindre.
Si l'on croit à l'échec, on aura tendance à y aboutir.
Rappelez-vous donc ceci.
Quand vous dites que vous êtes capable d'accomplir telle action et quand vous dites que vous en êtes incapable, dans les deux cas, vous avez raison. Les deux types de croyances sont très puissantes. La question est de savoir quel type de croyances nous voulons entretenir.
Les croyances sont un choix. Bien que nous ayons rarement conscience, nous pouvons tous choisir des croyances qui nous limitent
ou des croyances qui nous soutiennent.
Pour arriver au succès, il faut donc favoriser les croyances positives et écarter celles qui nous entravent.
La principale bévue que nous commettons au sujet de la croyance est de penser qu'elle est un concept fixe, une idée séparée de l'action. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. C'est au contraire parce qu'elle n'a rien de statique et qu'elle fait intégralement partie de notre fonctionnement, que la croyance ouvre la porte de la réussite.
Ce que nous croyons détermine le potentiel que nous allons être en mesure de mobiliser. Les croyances peuvent amorcer
ou arrêter le flot des idées.
Imaginez la situation suivante. Quelqu'un vous dit
« Va me chercher le sel, s'il te plaît. »
Et en passant dans la pièce voisine, vous vous dites
« Mais je sais pas où il est. »
Après avoir cherché pendant un petit moment, vous vous écriez «
Je trouve pas. »
La personne qui vous l'a demandé entre alors, prend le sel qui se trouve sur l'étagère, sous vos yeux, et dit
« Regarde, Ballot, il est devant ton nez. Tu ne trouverais pas d'eau dans la rivière. »
On peut donc affirmer que quand vous vous êtes dit
« Je ne sais pas où il est »,
vous avez donné à votre cerveau l'ordre de ne pas voir le sel. En psychologie, c'est ce qu'on appelle un scotome. Sachez que toute expérience humaine, tout ce que vous avez dit, vu, entendu, senti, ressenti ou touché, est emmagasiné dans votre cerveau. Quand vous vous dites avec conviction, que vous ne vous souvenez pas, vous avez raison.
Quand vous dites avec conviction que vous vous souvenez, vous donnez à votre système nerveux l'ordre d'ouvrir les voies qui conduisent à la partie de votre cerveau qui possède la capacité de vous fournir les réponses que vous attendez.
Ils peuvent parce qu'ils croient pouvoir. Virgile.
Que sont donc les croyances ?
Des accès préétablis à la perception qui filtrent la communication avec nous-mêmes de façon systématique.
D'où viennent les croyances ?
Pourquoi certaines personnes ont-elles des croyances qui les poussent vers le succès ?
Tandis que d'autres ont des croyances qui les aident seulement à échouer.
Si nous désirons imiter les croyances qui favorisent l'excellence, il nous faut tout d'abord essayer de répondre à ces questions.
La première source des croyances, c'est l'environnement.
C'est là que les cycles de la vie qui engendrent la réussite et l'échec se déroulent de façon absolument ininterrompue. La véritable horreur de la vie de ghetto, ce ne sont pas tant les soucis et les privations quotidiennes. Le vrai cauchemar, c'est l'effet que produit l'environnement sur les croyances et les rêves. Si vous ne voyez qu'échec et désespoir, il vous sera très difficile de donner forme à des représentations internes qui favorisent le succès. Vous vous souvenez qu'au chapitre précédent, nous avons vu qu'imiter est un geste que nous accomplissons en permanence. Si l'on grandit dans la richesse et la réussite, il est facile d'imiter la richesse et la réussite.
Si l'on grandit dans la misère et le désespoir, c'est là que l'on puise ses modèles de conduite.
Comme l'a dit Einstein,
rares sont les gens capables d'exprimer avec impartialité des opinions qui diffèrent des préjugés qu'on a dans leur milieu social. La plupart des gens sont même incapables de concevoir pareille opinion.
Dans l'un de mes séminaires avancés d'imitation, il y a un exercice où je fais intervenir des clochards. Nous leur demandons d'entrer dans la salle et nous imitons leur système de croyance et leur stratégie mentale.
Ensuite, nous leur offrons à manger, nous les entourons de la plus grande affection possible et nous leur proposons de raconter leur vie au groupe, de nous dire ce qu'ils pensent de leur situation actuelle et de nous expliquer pourquoi, à leur avis, ils en sont arrivés là.
Puis, nous les comparons avec des gens qui, malgré les grandes tragédies physiques ou morales qu'ils ont connues, ont réussi à s'en sortir.
Au cours d'une session récente, nous avons eu un homme de 28 ans, fort, de toute évidence intelligent, en bonne condition physique et qui était même joli garçon.
Pourquoi couchait-il sous les ponts alors que William Mitchell, qui du moins en apparence disposait de moins de ressources pour transformer sa vie, était très heureux ?
Mitchell avait grandi dans un environnement où abondaient les exemples, les modèles d'individus qui avaient surmonté d'immenses difficultés pour se bâtir une vie heureuse. Cela constituait une croyance en soi.
Ce qui avait été possible pour eux l'était aussi pour moi.
Au contraire, ce jeune homme, appelons-le John, avait grandi dans un environnement où il n'existait aucun modèle de ce type. Sa mère était une prostituée.
Son père avait été en prison pour meurtre.
Quand il avait 8 ans, son père lui avait fait une injection d'héroïne. Ce genre d'environnement avait sans aucun doute influé sur ce qu'il croyait possible, guère plus que la survie, et sur le moyen d'y parvenir, coucher sous les ponts, voler, essayer d'annihiler la douleur en recouvrant à la drogue. Il croyait que les gens profitent toujours de vous dès que vous n'êtes pas sur vos gardes, que personne n'aime personne, etc.
Le soir même, nous avons travaillé avec cet homme et nous avons modifié son système de croyances, comme nous l'expliquerons au chapitre 6. Depuis lors, il a abandonné sa vie de clochard et il a cessé de se droguer. Il s'est mis à travailler, il s'est fait de nouveaux amis et il habite dans un nouvel environnement. Ses nouvelles croyances lui ont permis d'avoir un nouveau comportement.
Le docteur Benjamin Bloom de l'Université de Chicago a réalisé une étude concernant une centaine de jeunes sportifs, musiciens et étudiants ayant particulièrement bien réussi. Il a été surpris de découvrir que la plupart de ces jeunes prodiges ne s'étaient pas montrés particulièrement brillants à leur début.
Au lieu de cela, la plupart avaient d'abord fait l'objet de soins attentifs, de conseils, d'appuis et n'avaient commencé à se développer qu'ensuite. La croyance qu'ils pourraient se distinguer avait précédé toute manifestation avérée de leur grand talent.
L'environnement est parfois le principal élément générateur de croyances, mais ce n'est pas le seul. Si c'était le seul, nous vivrions dans un monde figé où les enfants de la misère ne s'élèveraient jamais au-dessus de leurs conditions d'origine. Mais il existe d'autres expériences, d'autres moyens d'apprendre, qui peuvent être aussi producteurs de croyances.
Les événements, petits ou grands, favorisent parfois la formation de croyances.
Il est des événements dans la vie de chacun que l'on n'oublie jamais.
Où étiez-vous le jour où le président Kennedy a été assassiné ?
Si vous êtes assez vieux pour vous en souvenir, je suis sûre que vous le savez encore. Pour beaucoup de gens, ce fut le jour qui modifia à jamais leur conception du monde.
De la même façon, nous avons presque tous vécu des expériences que nous n'oublierons pas, des moments qui ont eu un tel impact sur nous qu'ils sont définitivement gravés dans notre cerveau. Ce sont là les types d'expériences qui suscitent les croyances susceptibles de transformer notre vie.
Quand j'avais 13 ans, je me suis demandé ce que je pourrais bien faire plus tard et j'ai décidé de devenir présentateur sportif à la télévision. Un jour, j'ai lu dans le journal que Howard Cosell devait dédicacer son nouveau livre au supermarché du quartier. Je me suis dit que si je devais devenir présentateur sportif, il fallait que je me mette à interviewer des professionnels.
Pourquoi ne pas commencer par l'un des plus grands ?
J'ai séché le lycée, j'ai emprunté un magnétophone et ma mère m'a conduit jusqu'au supermarché. Quand je suis arrivé, Howard Cosell se levait pour partir. J'ai été pris de panique. Qui plus est, j'étais entouré de reporters qui se bousculaient pour essayer de recueillir ses derniers commentaires. Sans trop savoir comment, j'ai réussi à me glisser entre les journalistes et à m'approcher de Cosell. Parlant à toute vitesse, je lui ai dit ce que je faisais et je lui ai demandé d'enregistrer une courte interview. Et devant les journalistes interloqués, il m'a accordé une interview personnelle. Cette expérience a transformé ma croyance sur ce qui était possible, sur ce qui pouvait être approché et sur l'intérêt qu'on a à demander ce que l'on veut. Grâce aux encouragements de Howard Cosell, j'ai fini par écrire pour un quotidien et j'ai fait carrière dans le domaine de la communication.
Le troisième moyen de favoriser la croyance, c'est la connaissance.
L'expérience directe est certes une forme d'accès à la connaissance, mais il existe aussi la lecture, le cinéma et la découverte du monde par ce qu'en disent les autres. La connaissance est un des grands moyens de briser les chaînes dans l'environnement sclérosant. Aussi sinistre que soit le monde dans lequel vous vivez, si vous avez la possibilité de connaître par la lecture les réalisations des autres, vous pouvez faire naître des croyances qui vous permettront de réussir. Le professeur Robert Kurvin, spécialiste des sciences politiques, a raconté dans le New York Times comment l'exemple de Jackie Robinson, le premier footballeur noir à jouer en première division, avait transformé sa vie quand il était encore un enfant du ghetto.
L'attachement que j'éprouvais pour lui m'a enrichi. Son exemple m'a permis d'élever le niveau de mes exigences. Eh bien, chers auditeurs, dès la semaine prochaine, nous aborderons ensemble le quatrième moyen d'obtenir des résultats. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Marie-Hélène et moi-même vous disons très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.